en des bouddhas, dharma et sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits et les dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Nous nous tournons vers l'éveil en une motivation de bienveillance universelle. Et continuons dans la voie du Bouddha, les six vertus parfaites. Nous avons vu la générosité, le don. Nous avons vu la discipline. La troisième est la patience. La patience. La patience est la capacité d'endurer par confiance, par compassion ou par compréhension de la vacuité. D'endurer les souffrances et adversités que nous pouvons rencontrer, quelle qu'en soit la cause. Qu'elle nous soit infligée directement ou indirectement. Ce, par des personnes, des êtres qui errent dans les apparences illusoires de la dualité, liées par la notion d'ego, ou que ce soit aussi des souffrances qui nous viennent de notre esprit ébranlé par ses passions, ou que ce soit encore des interruptions ou des obstacles contrariant notre pratique du dharma. Dans de la patience, dans toute chose, il faut s'y donner, avoir la discipline, et ensuite, la patience, ça prend du temps. Et aussi la patience et cette capacité, cette faculté de ne pas entrer tout de suite dans la réactivité. Ce qu'on appelle certaines fois aujourd'hui le pilote automatique. La non-réactivité, la non-réaction, ne pas être dans l'impulsion réactive et déjà capacité à suspendre. Hop. C'est aussi la patience, la capacité à supporter des difficultés, à endurer. Il fait chaud, il fait froid, on a faim, on a soif. Dans la pratique du dharma, la capacité à ainsi à supporter, à endurer les difficultés sous toutes les, tous les aspects que celles-ci peuvent avoir. Donc, il y a même aussi une forme ultime de patience qui est une forme d'acceptation de la réalité, acceptation que ce qui est soit comme c'est. Donc tous ces aspects de la patience sont développés de façon détaillée dans des traités comme l'ornement de la libération de Gampopa. Ici, Kalu Dorje Chan nous présente d'une façon très concise. Il dit donc la capacité à supporter, endurer toutes ces difficultés, toutes les difficultés, qu'elles viennent directement ou indirectement, en comprenant, alors, un point important, que ce soit dans la confiance peut nous aider à être patient. Confiance qu'il est bon d'être patient, ou confiance que dans la patience, il y a une possibilité de transformation, d'amélioration. Confiance que c'est par la patience qu'il va être possible d'améliorer ou de transformer. Par compassion pour ceux qui sont les sources d'irritation, d'impatience. Comme Kalu Dorje Chan dit un petit peu plus loin, comprenant que nos sources d'irritation sont des êtres qui errent dans les apparences illusoires de la dualité, liés par l'ignorance de la saisie d'un ego. Ou même par compassion, bienveillance envers soi, d'être patient eu égard à notre esprit ébranlé par ses passions. Ou encore patient dans la compréhension de la vacuité. Être patient, alors voyant l'illusion qui sous-tend les causes d'irritation, comprendre, voir l'illusion, c'est comprendre la vacuité, le vide de réalité des causes d'irritation. Et mentionner aussi patience vis-à-vis des interruptions ou des obstacles contrariant notre pratique du dharma. On voulait faire une retraite et on est réquisitionné pour quelque chose d'inattendu. On est en train de pratiquer et on vient nous solliciter, nous interrompre. Comment peux-tu me déranger alors que je pratique? Merci de venir me donner une circonstance de pratiquer la patience. Dans la patience. Ensuite, il y a peut-être une petite pause. Vient ensuite la quatrième vertu parfaite, la quatrième perfection, paramita, celle de l'effort, du courage. Quand nous pratiquons le dharma en voie vers l'obtention de la délivrance, vers l'obtention de la réalisation, que ce soit en écoutant les enseignements, en y réfléchissant ou en les méditant, il y a beaucoup d'efforts à faire et d'énergie à développer pour surmonter toutes les difficultés, froid, faim, soif, et aussi pour abandonner ce qui fait là aussi difficulté, obstacle, désir de bien-être, les distractions, toutes les souffrances. Donc, l'effort, nous l'avons discuté hier déjà. Courage, dans une motivation, résolution, détermination, inébranlable, indéfectible. Des difficultés, il y en a, des difficultés, il y en aura toujours, et la voie est de rencontrer avec courage les difficultés les unes après les autres et de savoir vaillamment. J'hésite à dire les vaincre, c'est un petit peu martial, mais les dépasser. Et notre principale difficulté, c'est nous. Donc, il s'agit de se dépasser. Et hier, je vous disais, toute chose dans la vie nécessite des efforts, études, apprentissage, travail, tout. Et il est nécessaire dans le... ce que disait souvent Kalu Dorje Chan, il est nécessaire dans la pratique du dharma d'être capable de faire des efforts proportionnels à l'objectif. L'éveil, la réalisation pour le bien de tous les vivants. Alors quand on sait les efforts que demandent souvent des petites choses triviales, on peut imaginer l'effort dont on peut avoir besoin pour réaliser l'éveil. Et il est bon là, de se souvenir de l'ardeur, de la détermination, de l'abnégation qu'eut le Bouddha ou qu'eurent les anciens, nos ancêtres dans la lignée. Ils sont pour nous un exemple et une source d'inspiration. À ce point, il est une histoire qui s'intitule « Le buisson de Karak Gomchun ». Il était une fois un méditant, Karak Gomchun, qui pratiquait en un endroit isolé, en retraite dans la montagne. À l'entrée de sa grotte de retraite était un buisson d'épines qui accrochait ses vêtements chaque fois qu'il passait. Un jour, se dit-il, il faudrait que je coupe ce buisson, vraiment. Mais, gardant toujours l'impermanence présente à l'esprit, il retournait vite à sa pratique. Pendant des années, il médita ainsi avec énergie et sans distraction. Quand il quitta sa retraite, le buisson était toujours là, mais Karak Gomchun était un maître accompli parvenu à la réalisation. Petite pause. La cinquième paramita, la cinquième vertu parfaite, est celle de la méditation. C'est ainsi qu'on la traduit souvent. Dhyana, qui est l'état d'absorption, ou en tibétain samten, ce qui a le sens de stabilité de l'esprit, stabilité du mental, stabilité de la pensée, un esprit stable. Donc, ainsi, la stabilité de l'esprit, qui est ce qu'amène la pratique méditative, ce qui correspond aussi à ce que l'on connaît sous le nom de shamatha. La pratique de la méditation est en premier lieu, suivant le sens littéral du terme, une stabilisation de la pensée. Pour acquérir un esprit, une pensée stable, il est nécessaire de commencer par abandonner les attachements sensoriels et toutes les activités distrayantes. Donc, pour se stabiliser, pour apprendre à rester tranquille dans son esprit, avoir un esprit tranquille, un esprit stable, il est nécessaire d'abord de ne pas être possédé par les attachements sensoriels. Si on est captif des attachements sensoriels et qu'on zappe d'instant en instant dans des saisies, on est tout le temps comme une girouette. Le zapping des attachements sensoriels. Donc, d'abandonner ou de laisser tomber les attachements sensoriels et toutes les activités distrayantes. Si l'on est constamment distrait, agité par toutes sortes de mouvements, de sollicitations ici, là, comme si, à droite, à gauche, ce tourbillon agite notre esprit et n'est pas la circonstance favorable pour trouver le repos. Ça se comprend, je pense, assez facilement. Mais on peut remarquer que la situation de retraite est justement la situation dans laquelle on se met en retrait de ce qui habituellement nous distrait et nous possède. Et c'est la condition, la circonstance optimale pour développer cette stabilité de l'esprit, son repos et l'aise qui y correspond. Pour ce faire, nous nous mettons en retrait. Modérons nos désirs et apprenons à nous contenter. Le contentement, c'est-à-dire être satisfait de ce qui est ici, être satisfait de ce que l'on a, de ce qui est, de ce qui est ici. Autrement, on est tout le temps en train de plus ailleurs, autrement. Et c'est une agitation sans fin. Donc, dans ce contexte de retrait, nous prenons la posture corporelle et restons silencieux, sans parler. C'est alors que l'esprit peut apprendre et s'entraîner à demeurer en une absorption unifiée. La base de l'entraînement est que l'esprit se pose, s'absorbe sur une chose, une seule chose. Ça peut être n'importe quoi, finalement. Un objet visuel, auditif, ça pourrait même être dans les 5-6 sens, c'est possible. Mais de rester stablement absorbé au repos sur un support de façon unique, uniquement dans cette expérience, tout à celle-ci. Tibétain, on dit tsechik, one-pointedly. Donc, et c'est ce que l'on nomme une absorption unifiée, une absorption unique, dans un état d'unification, d'unité, tout à cela. Et que ce soit absorbé en la clarté vide, l'état de lucidité ouverte, c'est l'absorption la plus essentielle, l'absence de fixation, ou que ce soit ce que l'on pratique souvent au début, avec les allées et venues du souffle, absorbé uniquement sans s'en distraire dans la sensation du souffle, inspiration, expiration, inspiration, expiration, de façon continue. Ou que ce soit aussi absorbé dans la contemplation d'un aspect du Bouddha, peut-être un aspect chenrezig, même imaginé, ou ce peut être une statue, ou une représentation, quelle qu'elle soit, juste rester absorbé, rester présent sans distraction en cette simple contemplation. Ou en prenant comme support d'attention des lettres symboliques, à blanc ou autre, des grains de lumière, des petits points lumineux qui peuvent être expérimentés devant soi, il peut même y avoir, ou à l'intérieur, dans différents lieux de son corps, ou de différents supports de méditation. Donc je vous disais, à la limite, toute expérience peut être un support de méditation, le point essentiel étant de rester dans une expérience stable qui est présente, qui consiste à être présent dans une présence attentive à ce qui est expérimenté de façon unique, stable, sans s'en distraire. Laisser l'esprit absorber uniquement, ainsi, est la pratique de la méditation. Au départ, l'esprit n'a ni liberté ni autonomie, et il ne reste pas en place. C'est comme un singe agité qui est Ouistiti turbulent, qui ne reste en place pas même un seul instant, des pensées variées apparaissant continuellement. En s'entraînant, en apprenant à rester attentif à une seule chose, il acquiert de l'autonomie, il acquiert le pouvoir sur lui-même. Il n'est plus agité par lui-même, il acquiert le pouvoir de rester tranquille, ce qui est le sens de ce qu'on appelle la pratique de stabilisation de l'esprit ou la méditation de stabilisation de l'esprit, ou encore la méditation qui consiste à ce que l'esprit reste tranquille. C'est ce que l'on nomme en tibétain shinai, en sanskrit shamatha. Alors, il existe de nombreux niveaux de stabilité de l'esprit. Les quatre principaux se déterminent par la présence ou l'absence de conception, d'évaluation, de joie et de bonheur. Au début, il y a une stabilité, mais avec des conceptions, puis la conception s'efface mais laisse la notion d'évaluation, puis vient une expérience de joie, puis de bonheur, Il y a ainsi une progression qui correspond à ce que l'on nomme les quatre dhyanas, ou les quatre niveaux ou états d'absorption ou de repos de l'esprit, stabilité de l'esprit. Par cette stabilisation de l'esprit, apparaît tout d'abord dans le corps et dans l'esprit une grande félicité, un grand bien-être. Chumanyonadan semmachunade, dit une parole célèbre, ce qui signifie l'eau qui n'est pas agitée et limpide, l'esprit qui n'est pas contraint est heureux. L'esprit qui reste au repos, sans agitation, sans être perturbé, sans être agité, sans être stimulé, est naturellement heureux et naturellement dans un état que l'on peut dire de grande félicité, d'aise et de bien-être. Les défauts habituelles, perturbations habituelles s'effacent et de multiples qualités se font jour, émergent, apparaissent, se révèlent. Et finalement, en cet état de tranquillité, de repos, se dévoile l'ultime réalité. L'on obtient la claire vision évidente, la claire vision à laquelle l'ultime réalité apparaît de façon directe, immédiate et évidente. C'est ce que l'on nomme l'intelligence primordiale autoconnaissante. L'expérience première, directe, immédiate, autoconnaissante, qui se comprend en elle-même. Et c'est la claire vision, l'acton, vipassana, la compréhension en soi de la cognition ou la compréhension en soi de l'esprit, la réalisation de la nature de l'esprit. Nous gagnons ainsi alors le premier degré de bodhisattva, libération des illusions du samsara, puis les suivants, et les qualités qui s'épanouissent alors, les grandes qualités des bodhisattvas, sont aussi vastes que l'océan. Petite pause. La sixième vertu parfaite, la sixième perfection, est la perfection de compréhension. La perfection de compréhension, la perfection d'intelligence, de la réalité, de l'esprit et de toute réalité. Et elle est très importante, c'est la plus importante, car c'est par et grâce à celle-ci que les cinq premières deviennent vraiment des vertus parfaites, comme nous allons le voir. Alors, nous avons vu précédemment que tous nos objets de connaissance sont des apparences illusoires, ce que l'on nomme les apparences illusoires de la vérité relative, ou des projections dans lesquelles, projections relatives, duelles, relationnelles, et aussi des projections relatives, car elles ne constituent qu'une réalité d'enveloppement et de surface. Et tous ces objets sont vides d'existence autonome, indépendante et de réalité fondamentale. Ils sont ainsi vacuité. Ils n'ont pas de réalité indépendante ou autonome. Mais bien que vides, ils ne sont pas rien que vides, ils sont aussi une clarté, une luminosité, une lucidité en laquelle apparaît toute la variété des aspects de toute chose, tous les phénomènes. Cette manifestation d'apparence illimitée qui sont en leur nature vide est semblable ou est illustrée par les 8 exemples d'illusions. Les choses sont apparentes et pourtant illusoires, illusoires et pourtant apparentes. Comme l'illustrent ces 8 exemples, toutes ces choses, tous ces phénomènes ont la nature fugace de ce qui est impermanent et changeant, comme un rêve, comme le reflet de la lune sur l'eau, comme un arc-en-ciel, ou comme une ombre, ou encore comme un mirage, ou la réflexion dans un miroir, ou un écho. Si nous les reconnaissons ainsi, nous pouvons transcender les fixations qui les tiennent pour réelles et ne plus nous y attacher. Voir ce caractère illusoire et insubstantiel de nos projections permet de ne pas les saisir comme réelles et par là même de s'y attacher comme on le fait habituellement. Dans l'ultime réalité ou l'ultime vérité, l'esprit connaissant qui projette toutes ses apparences n'a ni origine, ni fin, ni localisation. Alors, dans les projections, il y a le projecteur et les projections. Le concepteur et le conçu. L'esprit concepteur, l'esprit projecteur et connaissant n'a fondamentalement ni origine, ni fin, ni localisation. On peut le chercher ainsi, et il y a des examens précis pour ce faire. Il n'est pas un objet de connaissance que l'on puisse caractériser comme ayant une forme, une couleur ou une caractéristique identifiable, quelle qu'elle soit. Cet esprit, foncièrement, ne peut être déterminé comme étant un ou comme étant multiple, comme étant existant ou non existant, créé ou incréé, apparaissant ou disparaissant. C'est ainsi que, au-delà de toute caractéristique et de tout concept, sa disposition essentielle est vacuité, comparable à l'espace céleste, comparable à l'ouverture, vide de caractéristiques et de quoi que ce soit qui puisse être saisi. Cette compréhension ou reconnaissance de la nature illusoire des apparences et de l'esprit qui projette les apparences est ce que l'on nomme la perfection de compréhension, donc, qui comprend l'absence de réalité indépendante dans les choses et l'absence de caractéristiques essentielles en l'esprit. Donc, cette double vacuité, qui est aussi nommée le double non-soi, est la perfection de compréhension, la prajnaparamita. Il s'agit d'en faire une expérience directe, de l'expérimenter directement. Il ne s'agit pas de philosopher ou d'en avoir une compréhension intellectuelle, mais de la vivre ce dont il s'agit dans l'expérience directe, non conceptuelle, et que cette compréhension se stabilise et devienne une réalisation stable. L'esprit demeurant et restant absorbé en cette compréhension, car la seule intelligence conceptuelle n'a pas le pouvoir de libérer. Une jolie métaphore qui dit « L'oisillon de la pratique n'a pas à la naissance le pouvoir de s'envoler au firmament de l'éveil. Il doit, pour l'acquérir, se préserver des dangers par une conduite disciplinée, vivifier ses forces par la générosité, rester au nid de la méditation, préserver la continuité de son énergie, garder patiemment sa chaleur. Ce n'est qu'après avoir achevé l'exercice de la connaissance transcendante qu'il peut enfin prendre son envol. De façon similaire, en nous aidant des cinq premières vertus pour développer la connaissance transcendante, nous pouvons en développer une réalisation stable et obtenir ainsi l'état de Bouddha. Sans la réalisation du sens de la perfection de compréhension, nous sommes comme un oiseau sans ailes. Nous pouvons avoir toutes les forces que sont les cinq premières perfections qui sont nécessaires pour marcher jusqu'aux existences supérieures, mais rester sans ailes, incapable de nous envoler au firmament de l'état de Bouddha. Sans la véritable compréhension de la profonde vacuité, générosité, discipline, patience, effort et méditation ne peuvent à proprement parler être nommées perfection ou vertu parfaite, car elles n'ont pas à elles seules la capacité de nous faire transcender les illusions du samsara. Donc les cinq premières perfections peuvent nous amener vers des états de conscience supérieurs, mais elles n'ont pas, les cinq premières, la capacité à délivrer du samsara, à transcender ses illusions. Ce n'est que la sixième qui, dans la compréhension directe, immédiate de la réalité essentielle, a le pouvoir libérateur. C'est l'expérience libératrice qui délivre du samsara et fait accéder à l'état de Bouddha. Ainsi, ce qui est nommé perfection advient quand tout ce qui devait être abandonné l'a été, quand toutes les passions et les illusions ont été purifiées, dissoutes, abandonnées, et qu'il n'y a plus rien à chercher. Il n'y a plus chercheur ni cherché. Toute la pratique est parfaite, parvenue au-delà des illusions, à la perfection. Une petite pause. Il y a ensuite une histoire qui illustre d'une certaine façon la pratique des différentes vertus, c'est l'histoire de Milarepa. Mais comme elle est un petit peu longue et que l'heure est déjà avancée et que vous pouvez avoir peut-être des questions sur tout ce que nous avons vu, je vous propose que vos questions, que vous n'oublierez pas, et que cette histoire, avec les questions qu'elle peut aussi susciter, soit le sujet de notre prochaine rencontre. Une petite pause finale. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Je vous souhaite une bonne soirée, que tout soit propice et demain un bon jour de paresse puisque c'est mercredi et qu'il en est ainsi en Avalon.